France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
5 heures, bonjour à toutes et à tous. Au programme de ce 5-6, les grandes écoles se piquent de marine, on en parle dans les chroniques littorales. Une mise à jour pour les plus de 20 ans, vous saurez tout sur le réseau social des jeunes, Snapchat, dans la chronique d'où ça sort, et sur le nouveau phénomène du rap, la rappeuse Doechii. Ça sera dans la playlist à 5h35. À suivre aussi, à 5h40, le Zoom nous emmène en Pologne, pays qui se barricade face à la menace de son voisin russe. Puis notre invité déjà debout, fondateur de Cocorico, marque de prêt-à-porter made in France. Et Café Philo nous parlera d'architecture, cet art de la beauté et du pragmatisme qui façonne notre quotidien. Voilà, vous avez le menu. Ravi de vous accompagner ce matin.
France Inter.
Et on démarre avec le journal d'Astrid Meignet-Carn. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Vladimir Poutine dit oui à un cessez-le-feu. Mais il y a un mais.
Le chef du Kremlin demande à parler à Washington. Il a des questions importantes sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. C'est ce qu'a dit le président russe hier. Vladimir Poutine s'est donc dit pour une trêve, mais loin d'accepter la proposition américaine sans détour, Sylvain Tronchet.
Hier soir, après sa conférence de presse, Vladimir Poutine a rencontré l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, au Kremlin. Objectif de cette entrevue, la deuxième entre les deux hommes en un mois, préparer un prochain contact entre le président russe et Donald Trump et tenter de trouver la voie qui permettrait à Moscou d'accepter la proposition américaine de trêve de 30 jours dans la guerre en Ukraine. Parce qu'hier, même si le maître du Kremlin a une nouvelle fois remercié Donald Trump, même s'il a semblé soutenir sa proposition, il a en réalité repousser l'offre américaine, restant sur ses positions. Moscou ne veut toujours pas entendre parler d'une trêve sans condition. Le Kremlin veut que toutes ses exigences soient mises sur la table pour commencer à discuter, tout l'inverse du plan du président américain qui propose de faire taire les armes d'abord pour discuter ensuite. Donald Trump, qui a dit hier qu'il serait décevant que la Russie rejette sa proposition, va donc devoir convaincre Vladimir Poutine ou changer de plan.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou. La réaction de Volodymyr Zelensky ne s'est pas fait attendre. Le président ukrainien s'est dit convaincu que son homologue russe veut faire traîner les choses pour continuer la guerre. Les Américains qui, eux, usent de leurs moyens pour mettre la pression sur la Russie dans ces négociations. Cette nuit, le ministère de l'économie n'a pas renouvelé une autorisation qui permet aux banques russes d'utiliser leur système les systèmes de paiement américains. Une rare exception qui permettait aux banques russes de réaliser des transactions liées au domaine de l'énergie, une des principales sources de financement de l'État russe. Les États-Unis qui voient la menace d'une paralysie de leurs institutions grandir, d'un shutdown. Le Congrès américain doit voter un budget ce matin pour financer l'État fédéral jusqu'en septembre. Sans le vote des démocrates, le texte restera dans l'impasse. Des centaines de milliers de fonctionnaires risquent le chômage technique et le gel de leur salaire. Une situation de blocage au moment où l'administration Trump licencie des fonctionnaires fédéraux à tour de bras. Par ailleurs, un juge américain a ordonné hier à 6 ministères de réintégrer des milliers de fonctionnaires limogés par l'administration. Huawei revendique sa tolérance zéro en matière de corruption ce matin. Déclaration du géant technologique chinois au lendemain de l'ouverture d'une enquête pour corruption au sein du Parlement européen. Hier, les autorités belges ont interpellé plusieurs personnes et mené une vingtaine de perquisitions à travers le pays. Elles soupçonnent Huawei d'avoir pratiqué de la corruption régulièrement et discrètement sous couvert de lobbying. Le lobbying autorisé mais très encadré à Bruxelles.
En France, un adolescent écroué en Haute-Saône
est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Le jeune homme de 17 ans a été interpellé lundi devant son établissement scolaire. L'adolescent est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat, Margot Steve.
Tout est parti d'un simple contrôle à quelques mètres d'un lycée. Les gendarmes interpellent un élève en possession d'un couteau de grande taille. Un jeune homme qui s'avère être déjà bien connu des autorités. Surveillé pendant 2 ans par les renseignements territoriaux entre 2022 et 2024 pour radicalisation, le suspect était revenu dans le viseur de la DGSI début mars, après une conversation sur une messagerie cryptée. Un échange où le lycéen laissait supposer un projet d'action violente. Très vite, les services de renseignement reprennent donc la main sur la garde à vue du jeune homme, qui se revendique comme un sympathisant de l'organisation État islamique. Une attaque était-elle imminente ? Avait-il des cibles précise, enquête entre les mains d'un juge d'instruction devra le définir, indique le parquet antiterroriste. Reste que le profil du suspect est très inquiétant malgré son jeune âge, nous glisse une source proche du dossier. Depuis 2023, 70% des personnes interpellées par la DGSI pour terrorisme ont moins de 21 ans.
Margot Steve pour France Inter et il s'agit du premier attentat déjoué de l'année. Un autre adolescent, lui condamné en Isère hier, Valentin, 17 ans, va passer 12 ans en prison pour avoir assassiné ses parents. C'était en 2023 à Châteauvillain. Les experts ont estimé que le jeune homme avait subi une altération de son discernement. Il souffre d'un trouble autistique et au moment des faits de dépression et de symptômes psychotiques.
Bientôt une commission d'enquête sur les effets psychologiques du réseau social TikTok.
Les députés ont voté pour sa création hier avec une question en tête. L'application encourage-t-elle le passage à l'acte suicidaire et l'automutilation des adolescents en détresse psychologique ? Un vote une semaine après de nouvelles plaintes de familles contre TikTok. 11 reprochent au réseau social d'avoir exposé leurs enfants à des contenus qui les ont mis en danger et parfois menés au suicide. Pensez à lever les yeux au ciel ce matin si vous êtes dans le Finistère seulement pour apercevoir une éclipse lunaire, un phénomène qui vient de l'alignement du soleil, de la Terre et de la Lune. La Lune est pleine ce matin et elle va même se parer de rouge pour l'occasion. Éclipse totale entre 7h26 et 8h31. Pas besoin de lunettes spéciales pour celle-ci.
Une qualification sans difficulté pour les footballeurs de l'Olympique Lyonnais.
Et oui, l'OL a dépassé le FC Bucarest hier soir. Victoire 4-0 en match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Direction les quarts donc et les Lyonnais affronteront un adversaire de prestige, Manchester United, Christophe Vincent.
La qualification obtenue avec éclat et sans trembler, tous les esprits lyonnais étaient tournés vers Manchester United, une double confrontation qui n'impressionne pas le défenseur Moussa Niakate.
On ne va pas être là-bas pour prendre des vidéos ou pour regarder Old Trafford, on sera là-bas pour se qualifier. Et je pense qu'on a démontré depuis le début de saison qu'on a l'effectif pour leur poser des problèmes.
Les supporters sont plutôt confiants.
Manchester, ça va être plus dur. C'est une grande équipe et une grande histoire. Et puis ils ont un stade historique, ça va être dur là-bas quand même chez eux. Mais on y croit et on espère aller au bout. Hein.
Je pense qu'ils sont prenables. C'est plus les mêmes.
On pourra toujours se créer des occasions et c'est ce qu'ils font le mieux à Lyon. Créer des occasions et le reste c'est concrétiser.
Ça va passer, surtout avec le retour à Old Trafford. On va les calmer les Anglais. Je pense que c'est notre année. Faut y croire, sinon jamais on l'aura.
Car c'est bien l'objectif visé, remporter enfin une Coupe d'Europe.
Un trophée européen, au-delà de pour l'OL, pour le foot français aussi, ce serait top. Et c'est un rêve pour tous les Lyonnais, donc on y croit, ouais.
Premier rendez-vous, le 10 avril, à Décines, et une semaine plus tard, à Old Trafford.
Christophe Vincent. Autre rendez-vous footballistique ce soir, l'ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Nice reçoit Auxerre à 20h45. Et dimanche, match sous haute tension. L'OM vient jouer sur la pelouse du PSG au Parc des Princes. Une rencontre classée au niveau 5, niveau le plus haut sur l'échelle des risques de tension et de violence. Le club de foot parisien appelle donc ses supporters à l'apaisement et au calme. Il a lancé une campagne vidéo sur les réseaux sociaux hier. Et puis un coup de tonnerre dans l'industrie de la mode hier. Donatella Versace quitte la direction de la maison de couture. La créatrice l'a annoncé sur son compte Instagram hier. À 69 ans, l'icône de la mode à l'italienne tire sa révérence après avoir dirigé la maison Versace pendant près de 30 ans, Marion.
Et vous aussi, vous tirez votre révérence. Mais pour mieux revenir hein, dans un peu moins d'une demi-heure, Astrid Meignier-Carne, il est 5h08 sur Inter.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Plus sec et plus froid, Elodie Calac.
Encore quelques averses, surtout sur le sud-est, des Pyrénées vers les Alpes et la Méditerranée. Le ciel est très nuageux avec encore un peu de pluie près des Pyrénées, de la neige vers 700 mètres, quelques flocons aussi vers l'Auvergne. Des Alpes à la Côte d'Azur, là, ça reste instable avec des averses parfois orageuses cet après-midi, de la neige vers 1500 mètres. La Corse reste sous la menace d'averses et d'orages toute la journée avec du vent parfois fort au nord. Du nord-ouest au nord-Pas-de-Calais, encore un risque d'averses. Des éclaircies très belles tout de même ce matin, plus timides dans l'après-midi. On trouve de très belles éclaircies aussi sur l'Aquitaine en matinée. Ailleurs, des nuages bas, des brouillards fréquents, parfois une averse cet après-midi, mais quelques éclaircies se dessineront. Il fait plus froid ce matin avec des gelées sur une grande partie nord du pays. Attention aux verglas et aux routes glissantes. Cet après-midi, vous aurez 6 degrés à Rouen, 7 à Paris, 8 à Clermont-Ferrand, 10 à Nantes, Bourges, Metz et Grenoble, 11 degrés à Bordeaux ou à Montauban, 13 à Marseille et encore 18 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09, à suivre sur France Inter, quand les étudiants des grandes écoles fédèrent leur amour de la mer, c'est le sujet des chroniques littorales. Cocorico, c'est l'heure de se réveiller au chant du coq et bientôt d'écouter notre invité déjà debout, fondateur de la marque du même nom, Cocorico, à 6h moins le quart. Avant ça, gros plan sur un succès, celui du réseau Snapchat, dans la chronique d'où ça sort. Et puis, Charline Van Hoenecker explose les faits et un milliardaire conservateur en quête d'influence. C'est à 5h25. Mais avant ça, les chroniques littorales, et avant les chroniques littorales, c'est la musique. On voyage entre Paris et Brazzaville avec la jeune chanteuse électro Léonie Pernet. Paris Brazzaville de Léonie Pernet, tiré de son album éponyme. Prochain concert le 10 avril à Aubervilliers, en région parisienne, dans le cadre du festival Fragile. 5h13 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées, comme toujours, à des portraits de gens de mer. Et ce matin, c'est un marin des grandes écoles.
En la personne de Jean-Paul Billot, Marion. Jean-Paul Billot, bonjour.
Bonjour José-Emmanuel.
Jean-Paul Billot, alors, puisqu'on parle de gens de mer, vous représentez une partie de gens de mer qui est relativement inconnue, on appelle ça les submers, S-U-P-M-E-R. Qu'est-ce que c'est que les submers ?
Bon, il faut remonter aux origines de la chose pour ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un tropisme assez fort entre mon école HEC donc, et la marine, et on a alimenté promotion après promotion d'officiers de réserve. Par exemple, dans ma promotion, la promotion 65, il y avait 250 élèves français et on est 52 à être partis dans la marine, dans 6 corps différents.
Pour le service militaire.
Pour le service militaire, oui. Donc il y avait les interprètes, les chefs de quart, les fusiliers commandos. Il y avait même des psychologues, ce qui était quand même une chose intéressante. Bref, donc on a fait notre service dans la marine, 18 mois pour ce qui me concerne. Et après, quand j'ai eu un peu de temps, j'ai constaté qu'il y avait un groupe HEC Marine qui s'était constitué, avec les anciens élèves ayant servi dans la marine. Les groupes d'anciens élèves marines s'étant constitués à la demande de la marine, qui, voyant arriver la fin de la conscription, s'était dit qu'il serait bien qu'elle ait des groupes, disons de lobbying, dans les différentes écoles qui pourraient toujours être utiles d'une façon ou d'une autre. Donc, il y avait HEC Marine, et je suis entré dans ce groupe, et j'ai fini président. Bon. Et donc, il y avait ce groupe HEC Marine, et il y avait un certain nombre d'autres groupes dans les écoles. Il y avait XMER, il y avait ENA Marine.
XMER, c'est Polytechnique. Hein.
Polytechnique, oui. Il y avait Normal Sup, l'ESSEC, Subdeco, Supélec. Bon, il y en avait une douzaine. Et la Marine, bon, quand elle en a eu 12 sur les bras, elle s'est dit que ça serait mieux s'il y en avait un seul. Donc, elle a demandé à ce qu'on se fédère. On a réfléchi entre nous. Et on a pris une structure souple et le cluster maritime a eu de l'intérêt pour notre groupe.
Le cluster maritime, on rappelle, hein, c'est vraiment la fédération du monde maritime.
Absolument. Et on a fait un certain nombre de choses intéressantes ensemble.
Donc Supmer, voilà. Et vous, Jean-Paul Billot, on vous retrouve à l'Association des officiers de réserve de la marine dans le prix Bravo Zoulou. Alors, ce prix Bravo Zoulou, c'est le prix littéraire de l'association. C'est que tous les ans, on décerne plusieurs prix à des auteurs.
Absolument.
Vous nous expliquez ce que veut dire Bravo Zoulou ?
Bravo Zoulou, c'est un signal qui se traduit par deux pavillons de signaux dans le code OTAN. C'est un signal que l'on envoie pour féliciter d'une manœuvre bien exécutée.
Alors, qui sont les auteurs qui sont récompensés ? C'est du document, du roman, de la bande dessinée ?
C'est un peu tout ça, dans la mesure où il y a un prix livre, un prix beau livre et un prix bande dessinée. Et éventuellement, on peut ajouter une mention spéciale ou deux pour des ouvrages intéressants eux aussi, mais qui n'atteignent pas tout à fait le niveau des ouvrages primés.
Jean-Paul Billot, quand on est officier de réserve, alors on est dans la réserve de la marine, on a sa vie civile, c'est une double vie au quotidien ?
Pour pas dire que c'est une double vie au quotidien, mais vous avez quand même le tropisme marine. Moi, j'ai terminé ma carrière à IBM avec le surnom l'amiral qui m'a accompagné un bon bout de temps. Et donc, ça amenait à changer complètement d'univers et c'est assez équilibrant finalement de faire ça parce que vous vivez dans votre profession, votre famille, et puis on vous arrache à ça et on vous colle dans un univers qui n'est pas évident, mais qui est stimulant. Vous faites des choses que vous arrivez à faire pas trop mal et vous rencontrez plein de gens intéressants.
Merci à vous Jean-Paul Billot.
Merci José Manuel.
Un site internet acoram.fr. Bonne journée Marion Lour.
Bonne journée José Manuel Lamarque. Il est 5h17 sur France Inter.
Le 5-6 sur France Inter.
Et à la une de la presse ce matin, trois noms qui occupent presque tous les journaux. Trump, le président des États-Unis, Poutine, le président russe et le pape François. Sans grande surprise, c'est La Croix hein, qui consacre sa une au souverain pontife. Un mois sans François, puisqu'il est hospitalisé en effet depuis le 14 février. Le quotidien fait le récit d'un mois sous tension, je cite, assorti d'une photo où le pape affiche sur le cierge d'un fidèle un sourire serein. Peu de changements dans le casting en une des autres journaux, donc, dans le scénario également, guerre en Ukraine, guerre commerciale. Le vin français dans le viseur de Trump, c'est le titre en une des échos, puisque le nouveau président des États-Unis menace d'imposer à 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux européens, au risque, estime le quotidien, de priver la France de 4 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis. Trêve en Ukraine, le oui mais de Poutine à Trump, titre de son côté le Figaro. Après la réponse subtile du chef du Kremlin à la proposition de cesser le feu, le président russe dit soutenir le principe d'un arrêt des combats durant 30 jours, explique le quotidien, mais sous condition. Il faut en préciser les multiples détails et que la trêve conduise, je cite, à une paix durable qui supprime les causes du conflit. Voilà qui explique ce portrait de Vladimir Poutine en une de Libération, front ridé, regard droit devant et un titre qui claque, un cessez-le-quoi ? Point d'interrogation. Alors que La Croix titre « Face à Poutine, Trump rentre dans le dur ». Édito suivi l'opinion, c'est l'opinion qui titre « Face à Poutine, Trump rentre dans le dur ». Édito suivi d'un article consacré au narcotrafic, la loi présentée lundi et le consensus qui vole en éclats selon le journal sur un sujet qui était, c'est vrai, jusqu'ici assez fédérateur. Allez, pour changer de tonalité, une femme affiche un air déterminé en une de l'humanité, c'est Sophie Binet, la patronne de la CGT. Elle estime, entre guillemets, que pour les travailleurs, il n'y a rien de pire que l'économie de guerre. Et puis une bonne et une mauvaise nouvelle pour ce matin, elle est en bas à droite de la une des Échos, sans photo. Vert à moitié vide, les recettes fiscales du tabac sont en baisse. Vert à moitié plein, c'est parce que les ventes baissent aussi et ça, on s'en réjouit. À 5h20, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, d'où ça sort, ou plutôt à quoi ça sert le réseau social Snapchat ?
Eh bien, j'aurais pu vous raconter in extenso d'où vient Snapchat, mais je ne vais pas le faire. Ah. Car j'ai mieux, une source infaillible qui connaît Snapchat sur le bout des doigts. Une personne qui peut tout vous raconter dans les moindres détails, mais elle a posé une condition, l'anonymat. Impossible de prendre le risque d'être grillé dans le métier. Alors, cher X, dites-nous, comment est née l'idée de ce réseau social ?
Ivan Spiegel, Bobby Murphy, Richie Brown, la jeune vingtaine vont lancer leur application appelée Peekaboo. Elle a un concept bien spécifique, les utilisateurs ne peuvent que s'envoyer des photos éphémères, 10 secondes de visionnage et boum, elle s'efface comme si elle n'avait jamais existé. Les trois étudiants sont partis du constat que tout restait à jamais sur Internet et qu'ils n'avaient pas forcément envie que leurs photos de soirées alcoolisées viennent les hanter des années plus tard.
Ça s'écoute bien, mais vraiment, c'est un confort d'écoute qui justifie la blague.
Malheureusement, ce Peekaboo fait un flop, un problème de nombre notamment. Et c'est comme ça que Snapchat va faire son apparition. X, racontez-nous comment naît le début de l'effervescence.
L'application commence surtout à cartonner du côté des jeunes. La majorité des utilisateurs a entre 13 et 24 ans. Et c'est une cible de choix, car ce sont eux les plus connectés. Ce sont donc grâce à eux que l'entreprise espère gagner de l'argent avec de la publicité. Et c'est à partir de début 2012 que Snap connaît une ascension fulgurante. En un an, plus de 20 millions de photos sont partagées chaque jour sur l'application.
20 millions de photos chaque jour. Un grand merci à cette chère X de nous avoir fourni cet éclairage.
Qui est passé dans C'est mon choix, peut-être, non ?
Et dans Ça se discute à l'époque. Et de nous avoir fait comprendre que tout n'est pas rose dans le monde de Snapchat. Série.
Les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h cet après-midi au programme notamment 2010 et cette grève de footballeurs de l'équipe de France à Naïsna. Roselyne Bachelot, ministre des Sports de l'époque, pour en parler. 5h22, dans un instant l'humour de Charline Vanhoenacker, mais tout de suite une voix soul pour vous réveiller en douceur sur France Inter. C'est l'américain Leon Bridges et sa chanson Laredo.
I was running out of time, inspiration hard to find. Across the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady, body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the riddle? Just one more night. Just one more night. I knew a girl with a diamond crown. Grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down tempo. Low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the riddle? Just one more night. Just one more night. Oh,
simple. Low-key and rock steady. Body in it like gimbal. Falling for you like confetti. Oh, whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the rain? Oh, just one more night.
Laredo de Leon Bridges a retrouvé pour une date exceptionnelle le 15 juillet à la salle Playel à Paris.
France Inter.
Et à 5h25, c'est l'heure de notre sourire matinal avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mardi dernier, elle dressait le portrait de l'entrepreneur ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin.
C'est un milliardaire ultra-conservateur, ultra-libéral, catholique intégriste et qui finance par tous les moyens l'idéologie d'extrême droite. On lui prête l'ambition d'unir la droite pour 2027, mais moi je pense que son but, c'est surtout de finir dans mes chroniques. Il verse des millions à des assos, des partis, des influenceurs, pour qu'ensuite ces assos, ces partis, ces influenceurs aillent dénoncer la Sistana. Alors pour l'instant, il n'a pas encore réussi à racheter un média et ça... C'est l'archouma. Hein. Ça, c'est la honte pour un milliardaire français. Hein. Tous les autres milliardaires avaient déjà tout raflé avant lui. Alors, le nouveau projet de Pierre-Édouard Stérin, c'est la création d'un collège catholique d'excellence avec un internat non mixte réservé aux garçons. Ça, c'est génial pour les gamins qui vont pouvoir enfin faire leur scolarité au Puy du Fou. Son objectif, c'est de fabriquer une élite ultra réac. Donc, j'attends impatiemment les premiers résultats de la promotion Charles Martel. Ça nous donne une idée des cours d'histoire. Aujourd'hui, les ravages du totalitarisme sous le quinquennat de François Hollande. En cours de SVT, ouvrez vos livres au chapitre intitulé « L'Immaculée Conception ». Puis là-bas, quand on étudie Camus, bon ben c'est pas Albert, c'est Renaud. Alors pour former l'élite ultra-conservatrice de demain, c'est simple. Il suffit de regarder ce que fait l'élite ultra-conservatrice d'aujourd'hui et de... surtout rien changer, sauf un peu la conjugaison. Un nouveau collège privé catho, donc, chouette. J'espère que François Bayrou nous écoute, hein, qu'il dise pas après « Oh, j'étais pas au courant ». Vous voyez que Pierre-Édouard est sur tous les fronts. On peut dire qu'il est vraiment multifaf, je dirais. Alors, d'où vient sa fortune ? Des Smartbox, les coffrets cadeaux, c'est lui. Donc, tous ceux qui ont offert une Smartbox bien-être à Noël, vous avez financé l'extrême droite. Quand on verra Bardella dans un costume Dior, on se dira « Ah, oh, c'est avec le pognon du massage aux pierres chaudes que j'ai offert à Tata Lucette en 2008 ». Vous voyez où ça mène de ne pas avoir d'idées cadeaux à Noël ? Eh ben, ça mène au fascisme, voilà. Heureusement qu'il n'a pas mis tout de suite ses idées en avant quand il a lancé les Smartbox. Parce que ça, c'était un coup à se voir offrir un forfait frisson-évasion. 3 jours de running en forêt, poursuivi par un groupe de skinheads. Ou la Smartbox, héritage historique, une immersion dans les plus belles heures du régime de Vichy. Alors l'ambition est double chez Pierre-Édouard, unir les droites et devenir un saint. Et comme unir les droites, ça relève du miracle, je pense qu'il peut faire coup double. Lui jure qu'il n'a aucune ambition politique. Pierre-Édouard, 8e commandement, tu ne mentiras point. Ça vient juste après, aime ton prochain comme si c'était pas un immigré. Sinon, Stérin, c'est déjà un petit peu le messie de l'extrême droite, sauf que lui, il dit « prenez, ceci est mon argent », un messie mécène en quelque sorte, d'autant qu'il est exilé fiscal en Belgique. Voilà. Donc, Pierre-Édouard est partisan de la France aux Français qui sont domiciliés en Belgique pour payer moins d'impôts. C'est un courant de niche. Hein. Voilà. Conclusion, entre Stérin et Bolloré, on peut dire qu'aujourd'hui, la grande famille de l'extrême droite, c'est un papa et un papa.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 9h45.
À déguster.
Déguster et déguster encore plus demain, samedi à 19h20 parce que c'est bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
He said, and I quote, the professors are the enemy.
Cette voix, c'est celle de Jed Evans, le vice-président de Donald Trump. Un homme à l'histoire personnelle incroyable, né dans la pauvreté d'une mère toxicomane et aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants du monde, dont l'ambition paraît sans limite. C'est le portrait de cet homme inquiétant que je vous raconte.
Jed Evans, la revanche d'une Amérique profonde qui fait trembler le monde. Un podcast France Inter de Thomas Negaroff
à télécharger sur l'application Radio France.
5h29 sur France Inter, Ali Badou est arrivé. Il vient de me rejoindre dans ce studio pour un avant-goût du 6-9. Bonjour Ali.
Teaser, bonjour Marion.
En bon français.
Au programme aujourd'hui, en excellent français, le programme aujourd'hui à 6h20 et à l'occasion de la 25e journée du sommeil. Sommeil dont nous sommes cruellement privés ce matin.
Avec plaisir quand même.
Vous recevrez le docteur Marc Rey qui est neurologue et président de l'Institut National du Sommeil.
sommeil et de la vigilance. Et puis à 7h45, on célébrera un drôle d'anniversaire, celui du confinement. Que reste-t-il du confinement 5 ans après? Ce sera le sujet du débat éco entre Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, sa parole est rare et attendue, celle du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, viendra nous dire à quoi ressemblera la France économique d'aujourd'hui et de demain.
Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Astrid Meignet-Carne. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Volodymyr Zelensky, convaincu que son homologue russe veut, je cite, « faire traîner les choses ».
Tout ça pour continuer la guerre en Ukraine. Hier, le président russe s'est dit favorable à un cessez-le-feu d'un mois, mais souhaite en parler avec les Américains et apporter des nuances. Ce sont ces mots, une manipulation pour le président ukrainien. C'est aussi le sentiment de Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France en Russie.
Vladimir Poutine n'a pas dit « oui mais », il a dit « non sauf ». Et il a dit « non sauf, soyons clairs, si l'Ukraine capitule, je veux bien cesser les combats, si l'Ukraine renonce à tout ». La difficulté, on le voit bien, le président Trump est obligé de faire semblant, puisque c'est son initiative, donc il doit essayer de forcer le destin, c'est ce que va essayer de faire son envoyé spécial. Mais enfin, la réalité, c'est qu'on n'a pas avancé d'un centimètre depuis la proposition que, je le rappelle, le président Zelensky, lui, a acceptée. Donc, il faut quand même être clair. Et quand le président Trump dit « il y a des gens qui meurent tous les jours », les gens qui meurent tous les jours, ce sont des Ukrainiens. Parce que ceux qui meurent de l'autre côté, ce sont des soldats russes, alors que ce sont des civils qui meurent en Ukraine tous les jours du fait des frappes russes. Donc je crains que nous ne soyons malheureusement toujours dans une impasse totale.
Jean-Maurice Ripert au micro de Julien Langlais. Le président américain, lui, est beaucoup plus optimiste. Il juge la déclaration de Vladimir Poutine prometteuse, mais prévient quand même qu'il serait très décevant pour le monde que Moscou rejette cette proposition de cesser le feu. Donald Trump qui provoque gêne et colère. Hier, le président américain a donné une conférence de presse aux côtés du chef de l'OTAN. Il a été interrogé sur sa volonté d'annexer le Groenland. Cela va finir par arriver, a déclaré Donald Trump. Rire embarrassé de Mark Rutte, chef de l'OTAN, qui a dit rester en dehors de tout ça. Et colère immédiate du Premier ministre groenlandais sortant. Assez, c'est assez, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Donald Trump qui crée la panique dans le secteur des vins et spiritueux français. Le président américain a menacé hier la France et l'Union européenne de taxer le champagne, les vins et autres alcools à 200%, soit 3 fois le prix initial. Si Bruxelles n'abandonnait pas sa riposte sur le whisky américain, le président du comité champagne a protesté hier soir. Il alerte, les vins et spiritueux ne doivent pas être l'otage d'une escalade commerciale.
En Syrie, le président par intérim salue une nouvelle page de l'histoire.
Ahmad al-Sharr a signé hier une déclaration constitutionnelle pour une période de 5 ans. Le texte garantit notamment une séparation stricte des pouvoirs en Syrie, la liberté d'expression ainsi que les droits des femmes. Au Portugal, le Premier ministre convoque des élections législatives anticipées. Luis Montenegro, empêtré dans un scandale de conflit d'intérêts, a démissionné mardi. Les Portugais sont donc appelés à revenir aux urnes le 18 mai pour élire leurs députés. 3e élection législative depuis janvier 2022. Un attentat déjoué et un adolescent écroué en Haute-Saône. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé lundi devant son établissement scolaire. Il était armé d'un grand couteau. Il a été placé en détention et donc mis en examen hier. L'adolescent est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat. Les renseignements français le surveillaient depuis le début du mois pour radicalisation. Le parquet national antiterroriste est en charge de l'enquête.
La méningite bat des records en France.
184 cas recensés depuis le début de l'année, du jamais vu depuis 10 ans selon Santé publique France. Une recrudescence des cas qui touche surtout les enfants et les adolescents ainsi que les jeunes adultes, Anne-Laure Danier.
Les infections provoquées par le méningocoque atteignent des records depuis que les Français n'appliquent plus les mesures sanitaires mises en place pendant le Covid. Il y a eu 615 cas l'an dernier, du jamais vu depuis 10 ans et ça continue en ce début d'année. 95 cas en janvier, 89 en février. La grippe qui a été particulièrement virulente cette année explique aussi cette recrudescence des cas. Ces infections bactériennes peuvent provoquer une méningite ou une septicémie. 13 personnes en sont mortes en janvier, principalement de jeunes adultes. C'est d'ailleurs parmi les étudiants que 2 clusters ont été détectés à Lyon et à Rennes, où est menée une grande campagne de vaccination. Depuis le 1er janvier 2025, elle est obligatoire pour les nourrissons est recommandée chez les adolescents de 11 à 14 ans. La Haute Autorité de Santé vient d'être saisie par le gouvernement pour évaluer la pertinence d'une obligation de vaccination pour cette tranche d'âge. Elle se prononcera d'ici à la fin du mois.
Anne-Laure Danier pour France Inter. Ce niveau-là aussi est inquiétant. Le niveau des mers a augmenté plus que prévu l'an dernier. Observation faite par la NASA qui surveille la montée des eaux grâce à ses satellites. Une hausse de 0,59 cm. Les scientifiques s'attendaient plutôt à 0,43. Un phénomène qu'ils expliquent par le réchauffement inhabituel des océans combiné à la fonte des glaciers notamment. Et puis Lyon et Manchester United s'affronteront en quart de finale en Ligue Europa de football. Après la belle victoire des Lyonnais hier soir face aux Roumains de Bucarest, victoire 4-0 Marion.
C'était le journal d'Astrid Meignier-Kern. Vous pouvez rentrer vous coucher, Astrid.
Vous souhaite une bonne nuit. Je vais aller voir la pleine lune.
Voilà, dans le Finistère, oui, c'est un peu loin quand même.
C'est un peu loin.
Allez, bonne nuit. Le temps de ce vendredi, la journée cette fois s'annonce encore instable, surtout dans le sud-est et plus froid aussi. Ce matin, des averses arrosent les côtes de la Manche et la pointe bretonne. Temps plus sec du sud-ouest au nord-est. Attention quand même au brouillard sur le centre et le nord-est. Il va neiger à basse altitude, 600 mètres sur les Pyrénées, 1300 mètres sur les Alpes. Cet après-midi, le ciel alterne entre éclaircies et passages nuageux. Des averses orageuses tomberont sur la Corse et la Provence et même jusqu'à l'Occitanie avec des pluies encore soutenues. Côté température, il gèle ce matin sur le nord du pays, le nord de l'Aquitaine et le centre-est. Prévoyez entre 0 et 13 degrés ce matin, 5 à 19 cet après-midi, 7 à Clermont-Ferrand, 8 à Paris et Lyon, 9 à Limoges et Strasbourg, 10 à Rennes, 11 à Biarritz et Perpignan, 12 à Marseille, 14 à Nice et 17 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la playlist de Mathieu Conquet. Allez. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Alors ce matin, vous nous parlez d'anxiété. Merci, au petit matin. Mais bon, tout va bien parce que c'est avec Doechii.
Oui, la rappeuse de 26 ans venue de Floride, Doechii, ça s'écrit avec deux i. Elle est brillante, elle est drôle. Doechii qui affole les compteurs et les auditeurs d'abord avec son nouveau single Anxiety. C'est tout nouveau, mais c'est loin d'être neuf, je vous raconte. Pas de limites, pas de frontières. Qu'y a-t-il dans ce nouvel ordre mondial ? Anxiety ! Au départ, c'était un morceau qu'elle chantait seule dans sa chambre avec son ordinateur, un micro et une vidéo postée il y a 4 ans. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé pour Doechii, celle qu'on surnomme la Swamp Princess, a sorti entre-temps son premier album, Alligator Bites Never Heal, les morsures de l'alligator ne guérissent jamais. Et c'est un raz-de-marée, meilleur album rap de l'année au dernier Grammy Awards, élue femme de l'année par le magazine Billboard. Mais voilà, je vais un peu vite parce que vous dites, mais la mélodie derrière là, ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, non ?
Gauthier.
Vous me dites le titre ?
Somebody that I used to know.
Voilà, l'Australien qui avait accédé à une notoriété mondiale avec ce morceau en 2012. Morceau lui-même déjà inspiré d'une partie de guitare d'un disque brésilien des années 60. Hein, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, vous me direz. Alors des années plus tard, donc Doechii, la jeune rappeuse, reprend l'instrumental de Gauthier pour en faire voilà, une sorte de carte de visite juste pour Internet, sans vraiment le sortir. En 2023, le rappeur Sleepy Hollow avait repris la version de Doechii. Vous me suivez ?
C'est
un peu comme les remixes jamaïcains. On fait 5 tubes avec le même instrumental. Sauf que Doechii n'est ni DJ, ni surfeuse de succès, mais une musicienne, une artiste complète. Et ça, tout le monde a pu le voir lors de son concert pour la radio publique américaine NPR, son Tiny Dex Session.
Fly bitch. You a coach, ho. I'm the new hip-hop Madonna.
Thanks up.
Tochi, chanteuse, rappeuse, influenceuse.
Bah, c'était l'émeute partout où elle passait la semaine dernière à Paris pour la Fashion Week. Tochi qui va sans doute commencer à connaître les angoisses de la célébrité, un peu comme Michael Jackson et Rockwell. Vous vous souvenez, hein, Somebody's Watching Me. Ouais. On va écouter, elle le cite là dans le morceau, on va écouter enfin cette anxiety, petit bijou de contagion musicale, Tochi.
Juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Anxiety à retrouver dans la playlist de France Inter. Et puis côté concert au Festival Rock en Seine cet été, il faut attendre un petit peu. Mais d'ici là, grâce à vous, on la verra, on l'entendra ce soir dans votre émission.
Oui, bah oui, avec les autres nouveautés de la semaine, du rock, du rap et même de la photo.
À la radio, je vous parlerai
d'une très belle exposition du photographe anglais Dennis Morris, Music plus Life, celui qui a saisi entre autres Bob Marley et les Sex Pistols. Ça va sonner à ce soir.
À ce soir, Mathieu.
5h41 sur France Inter, toujours pas de trêve dans le conflit ukrainien. Le président russe exige que le projet soit remanié et pendant ce temps-là, les voisins de la Russie s'inquiètent. Sur le flanc est de l'Europe et de l'OTAN, la Pologne se prépare au scénario du pire. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour à tous.
Varsovie donc se barricade, vous l'avez constaté sur place, à la frontière avec l'enclave de Kaliningrad.
Oui, tout au nord, accompagné bien sûr par l'armée polonaise.
Ok.
On ne va pas plus loin. C'est interdit.
Bon, on continue à pied vers une double rangée de très gros plots en béton blanc. On appelle ça des dents de dragon. Ils ont été posés il y a quelques mois seulement pour ralentir une éventuelle invasion. La Russie est là, à portée de main. Alors, comment ça marche ?
D'abord, on a la tranchée. Des chars auraient déjà du mal à la franchir. Après, pour dégager les dents de dragon, là, il faut des explosifs. Et s'ils passent, ils arrivent dans les mines.
Alors, il faudra attendre 2030 pour que ce dispositif sécurise les 800 km de frontières que la Pologne partage avec la Russie et la Biélorussie. Ça va coûter plus de 2,5 milliards d'euros. C'est ce que nous dit le major Mihal Bernatko.
Oui, on est prêt. Et on continue à se préparer. Nos forces augmentent, notre équipement se modernise. Quand on parle du bouclier de l'Est, on parle de la résilience de l'État polonais tout entier.
Cette année, la Pologne va consacrer 4,7% de son PIB à sa défense, deux fois plus que la plupart des pays européens.
Avec une volonté aussi de former les plus jeunes, Isabelle, en Pologne, on se familiarise avec la guerre dès l'entrée au lycée.
Depuis l'an dernier, les cours de maniement des armes sont obligatoires. Là, on est au lycée Konarskiego à Varsovie.
Ładuj.
Chargez.
Ognia.
Feu.
Les élèves sont à plat ventre sur des tapis de camouflage. Ils visent à 10 mètres des silhouettes en carton.
C'est pas mon meilleur score, mais bon, ça va.
Après la carabine, Carolina, 16 ans, prend un fusil d'assaut. Comme les autres, c'est une arme factice. Pour toi, c'est normal de faire ça, en fait.
Je sais que c'est une arme et que c'est dangereux, mais si on la manipule de manière encadrée, c'est très bien. Les pays qui ne le font pas seront perdants au bout du compte, parce que c'est important d'avoir une société qui est formée à ça.
L'enseignante Barbara Stefaniuk.
En dehors de l'école, je sers dans le 53e bataillon d'infanterie légère. Je m'entraîne avec les soldats, donc je sais de quoi je parle. Et je me sens plus crédible après quand je donne des cours aux jeunes.
Des jeunes que l'on pousse ensuite à s'engager dans l'armée, comme Oscar, 18 ans, que j'ai rencontré à la sortie d'un centre de recrutement, des étoiles plein les yeux.
Ça a toujours été mon rêve d'intégrer l'armée. Si tout se passe bien, dans une semaine, je pars pour 27 jours de formation initiale. Et après, il y a 11 mois de formation spécialisée.
Et est-ce que tu penses vraiment, Oscar, qu'il peut y avoir une guerre avec la Russie ?
J'espère qu'il n'y en aura pas, mais on n'a pas de très bonnes relations avec l'Est. Et connaissant l'histoire, tout est possible.
Et c'est pour éviter une répétition de l'histoire que la Pologne ambitionne de créer une armée de 500 000 hommes, la plus puissante d'Europe.
Comment la Pologne se prépare à une éventuelle guerre avec la Russie ? Reportage d'Isabelle Labéry à retrouver sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et à 5h46, c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, Arthur Charles, fondateur de la marque de prêt-à-porter 100% français Cocorico. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en temps normal, vous habitez Fraissinet-le-Gélat dans le Lot, mais en ce moment, vous êtes à Paris. Alors, pourquoi vous êtes déjà debout ?
Alors moi je suis debout tous les matins, on est une marque de Made in France, et c'est vrai que à Fraissinet-le-Gélat, on a nos propres usines et notre propre entrepôt qui commence très tôt le matin puisqu'il ouvre à 5h45. Et donc l'objectif c'est que je puisse lancer la journée de tout le monde, lancer les objectifs, puis être disponible si jamais il y a des petits soucis pour l'expédition de nos commandes ou sur des sujets de production.
Donc d'être debout à l'ouverture des usines, et là précisément votre rôle c'est quoi ?
Alors, moi, c'est de pouvoir être disponible pour les équipes si jamais il y a un souci sur les chaînes, être sûr de pouvoir répondre à leurs problématiques et puis être présent si jamais il y a des soucis.
Alors, parlez-nous de Cocorico. Vous l'avez lancé en 2016 et le concept, en fait, c'est du Made in France de A à Z, même pour les jeans, par exemple, ce qui est quasiment inédit.
Ouais, tout à fait. Nous, la mission qu'on s'est donnée dès le départ, c'est une boîte que j'ai lancée avec mon frère et ma sœur. C'était de proposer du Made in France à des prix qui sont accessibles pour tous. Donc, on a essayé de se rendre abordable. On constatait qu'il y avait un gros engouement pour des vêtements fabriqués en France, mais que la plupart des Français avaient un petit peu de mal en termes de prix sur ces sujets-là. Mmh. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et essayer de démocratiser un petit peu le Made in France, le rendre abordable.
Voilà, parce que l'idée qu'on a, c'est que le Made in France, c'est bien, mais c'est plus cher. Et à ça, vous répondez pas forcément.
Ouais, tout à fait. Quand on s'est lancé en 2017, on a lancé un premier boxer à 9,90€, ce qui était quasiment au prix du Made in ailleurs, sachant que c'est un produit qui est 100% fabriqué sur notre territoire.
Et donc, comment est-ce qu'on évite finalement ce coût supplémentaire ?
Écoutez, nous aujourd'hui, par notre collection, nous aujourd'hui on propose des basiques, donc vraiment les intemporels de la garde-robe qu'on a tous. Et donc ça nous permet de pas avoir de logique de collection et de bien travailler sur les produits qu'on propose. On a aussi le fait que le Made in France, en fait, le fait d'avoir des usines à 200-300 km de chez vous, ça vous permet de fonctionner en flux tendu pour vos approvisionnements. Donc aujourd'hui, nous, on fonctionne sans stock et on est capable de livrer malgré tout nos clients en 24-48 heures. Et donc, il n'y a pas d'invendu chez Cocorico. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le risque d'invendu coûte extrêmement cher aux marques de mode. Et la plupart du temps, elles vous le font payer. Alors, et donc, ce n'est pas notre cas aujourd'hui.
Justement, il y a eu une baisse des ventes du prêt-à-porter en France ces dernières années. On l'a vu encore pendant les soldes d'hiver. Ça vous touche aussi ?
Alors non, nous au contraire, je pense que notre positionnement made in France, qualitatif et à prix abordable pour tous, était un petit peu le ticket gagnant. On tient notre épingle du jeu, on a grandi de 40% l'année dernière, on a vendu plus de 700 000 produits sur notre site internet cocorico.store, ce qui fait de nous le plus gros fabricant de vêtements français. Donc je pense qu'on a aujourd'hui apporté une réponse à ces problématiques de la mode.
Une vingtaine de salariés qui travaillent, je crois, de 6 heures, on le disait, 5h45 jusqu'à 14h. Et là, cette année, vous vous lancez en magasin. C'est encore utile d'aller en magasin ?
Ouais, tout à fait. Malgré tout, 70% des achats de vêtements se passent aujourd'hui en magasin. On est historiquement sur Internet. On a eu un gros succès sur Internet. Donc, c'est vrai qu'on avait la demande de certains de nos clients de pouvoir nous retrouver en boutique, de pouvoir toucher nos produits, les essayer. Et donc, on va se lancer très prochainement dans plusieurs boutiques multimarques. Tous nos clients pourront nous retrouver près de chez eux.
Prochainement, c'est quand ?
C'est dans les mois qui viennent, là, d'ici le mois prochain.
Eh bien, bonne chance. Arthur Charles, fondateur de la marque Cocorico, prêt à porter 100% français. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin sur France Inter. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités, c'est à 5h50. Aujourd'hui, Gabriel s'intéresse à une invention à la fois géniale et tragique.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Alors je vous ferai dire que autour de moi, dans ce studio et même dans le micro, il y en a partout.
Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 7 ans. Qui a inventé le plastique ? Quand et pourquoi ? Merci.
Merci pour cette question très précise, Gabriel. Qui a inventé le plastique ? Quand et pourquoi ? Nathalie Gontard, vous êtes spécialiste du plastique, vous êtes chercheuse à l'INRAE, à Montpellier. Alors qui, quand, pourquoi le plastique ?
Alors Gabriel, le plastique a été inventé dans les années 1950 à peu près. Ça fait quand même assez longtemps maintenant. Et en fait, c'est un produit qui est issu du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole est une matière, en fait, c'est une matière naturelle au départ. C'est des végétaux qui se sont, du plancton, etc., qui s'est dégradé, mais pas complètement parce qu'il a été stocké à l'abri de l'oxygène. Et donc, cette matière naturelle s'est transformée en petits morceaux, on pourrait dire des petits Legos, qu'on a appelés hydrocarbures. Et des pétrochimistes ont découvert comment on pouvait réassembler ces Legos, mais exactement comme on le souhaitait.
Les pétrochimistes, ceux qui donc utilisent ce pétrole pour en faire autre chose.
Voilà, ce sont des chimistes et ils ont été capables de réassembler ces petits Legos pour en faire une molécule telle qu'ils la souhaitaient. Et d'ailleurs, deux d'entre eux ont obtenu un prix Nobel en 1963 pour cette découverte de ces petits clips.
Donc ce seraient eux les qui, pour répondre à la question de Gabriel ?
Alors c'est pas si simple que ça, parce que avant ça, il a fallu découvrir le pétrole, le purifier, et puis après il a fallu ensuite apprendre à mettre en forme. Mais bon, oui, là ça a été quand même une étape très importante de ces deux. C'est pour ça qu'ils ont été récompensés par un prix Nobel. Ils ont donc fabriqué comme ça un matériau qui pouvait être mis en forme très 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 facilement, c'est-à-dire qu'il suffisait de le chauffer puis de le refroidir. C'est d'ailleurs la signification du terme plastique, hein, c'est-à-dire qu'on peut très facilement le mettre en forme. Et donc, je ne sais pas si tu peux imaginer, Gabriel, le progrès que ça a signifié. Alors qu'il faut débiter, raboter le bois, couper, assembler le métal, coller le papier ou le carton, tisser puis coudre les tissus par exemple. Voilà, c'est pour cela qu'on a inventé le plastique, pour avoir un matériau qu'on pouvait mettre en forme très facilement, à laquelle on pouvait aussi donner n'importe quelle couleur et qui était en même temps léger, résistant.
Pas cher.
Et là-dessus, voilà, là-dessus, les industriels se sont emparés de cette découverte et se sont dit, on va la rendre accessible à tous. Et donc, on va produire ces plastiques en très grande quantité. Et donc, ils ont construit des usines gigantesques pour pouvoir produire ce plastique en grande quantité. Parce que plus on le produit en grande quantité, et moins il est cher. Et donc, au début, les objets en plastique étaient réservés à quelques privilégiés. Mais très très vite, ils ont envahi notre quotidien et notre planète en nous faisant gagner du temps et du confort en cherchant le meilleur sans envisager le pire. Parce que, au bout de quelques dizaines d'années, on s'est aperçu que ce plastique n'était pas si fantastique.
On avait
que
créé
cela.
Un monstre.
Exactement. Les quantités de plastique énormes qu'on utilisait, et pour la majorité d'entre eux, pour rien, mettent aujourd'hui en danger notre planète, voire même notre propre survie. Parce qu'aucun organisme n'est capable de les digérer. Et donc, ils persistent sous forme de petites particules pendant des siècles et des millénaires.
Jusque dans notre propre corps. Eh oui. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Crenier. Rendez-vous juste après 20h ce soir sur France Inter.
France Inter. Le 5-6.
Allez, on va jouer ce matin dans Café Philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lour.
Un petit jeu de devinette, si j'ai bien compris.
Oui, alors si je vous dis qu'elle est partout, sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans notre paysage quotidien, si je vous dis qu'elle peut être symbolique...
La Terre, non.
Non. Porteuse de signification, qu'elle crée entre les humains à la fois une communauté culturelle et une différenciation sociale... Je vous vois un peu froncer les sourcils, ouais. Marion. Pourtant, vous la connaissez. Allez, encore un indice. Là, vous allez trouver, c'est sûr.
Oui.
Certains noms ont marqué son histoire. Auguste Perret, Le Corbusier, oui. Jean Nouvel, Renzo Piano ou Franck Guéry.
Ça y est, l'architecture, ouais. Les architectes.
Exactement.
C'est l'architecture que vous voulez donc nous parler ce matin.
Exact. Vous remarquerez en passant que les architectes que j'ai cités les plus connus sont... des hommes, cherchez l'erreur. Demandez autour de vous, par exemple, qui connaît Zaha Hadid, elle a pourtant reçu le prix Pritzker, considéré comme le Nobel d'architecture. L'Opéra de Canton, c'est elle. L'Aquatic Center de Londres, c'était pour les JO en 2012, c'est elle. La tour CMA-CGM de Marseille, c'est encore elle.
Bon, maintenant que la justice est en partie réparée grâce à vous, Patricia, on en revient au thème plus général de l'architecture.
Oui, l'architecture est un drôle d'objet, en fait. Une chose qui n'est pas une chose, à la fois matérielle et immatérielle, pragmatique et utopiste. L'architecture a à voir avec l'espace, évidemment, le temps, l'hygiène et la solidité, la sécurité, les matériaux et bien sûr les humains.
Eh oui,
elle est omniprésente dans nos vies, objet de rejet ou d'enthousiasme.
Car elle a aussi à voir avec la beauté.
La beauté classique, héréditaire, la beauté qui dérange, bref, elle ne laisse, je crois, personne indifférent. Alors, on ne présente plus Eugène Viollet-le-Duc.
Bien sûr.
On peut dire que, d'un point de vue théorique, il a posé les bases de l'architecture moderne et il a restauré, bon, on ne va pas le rappeler, hein, mais notamment Notre-Dame. Écoutons ce qu'en dit Yvan Christ. Il est spécialiste de l'histoire architecturale.
À Notre-Dame, avant de commencer les travaux, Viollet-le-Duc avec son ami Lassus, son collaborateur Lassus, qui est mort du reste en cours de travaux, a fait une déclaration tout à fait remarquable. Je vais vous la citer, mais exactement. Il avait dit « Nous pensons que chaque partie ajoutée, à quelque époque que ce soit, doit en principe être conservée, consolidée et restaurée dans le style qui lui est propre. » Ils ajoutaient « Et cela avec une religieuse discrétion, avec une abnégation complète de toute opinion personnelle. » C'est une phrase admirable. Si véritablement Viollet-le-Duc avait suivi une telle déclaration, bien personne aujourd'hui ne le critiquerait, personne ne l'attaquerait, moi encore moins.
Et vous pensez qu'il a fait le contraire?
Mais il a fait exactement le contraire.
Il a fait le contraire, donc et on ne s'en plaindra pas, Patricia.
Non.
Rendez-vous ce soir dans leur philo, donc avec les philosophes Yves Michaud pour un essai « Qu'est-ce que l'architecture ?» publié chez Folio. Il est accompagné de Bérénice Levet. Ce sera vers 20h10. À ce soir.
À ce soir. Merci Marion Lourd.
France Inter, 9h20, Rebecca Manzoni.
Cette semaine, Totemic, c'est une virée à la campagne, en Mayenne, chez Didier Lestrade, cofondateur d'ACTUP, journaliste, écrivain qui vient de publier ses mémoires chez Stock.
Totemic, tous les vendredis à 9h20 sur Inter. France Inter, partenaire des Nuits de Fourvière, festival international de la métropole de Lyon du 2 juin au 26 juillet. Plus de 140 représentations de théâtre, danse, magie, cirque, cabaret et concerts pour 2 mois de fête. Avec notamment Fontaines D.C., Georgia Smith, Kraftwerk, Saint-Levant, Political Mother du chorégraphe Ofez Schecter ou encore la nouvelle création de Pomme, Marie et Johan Bourgeois. Les Nuits de Fourvière du 2 juin au 26 juillet. Un événement France Inter.
5h58.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables. Par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Toujours gris et plus froid. Élodie Calac.
Moins d'averses, sauf sur le sud-est. Sur la Corse, on garde un ciel menaçant avec des averses et des orages, du vent également. Des Alpes à la Provence, quelques averses ce matin, plus nombreuses et orageuses cet après-midi. Un petit peu de neige en montagne vers 1300 mètres ce matin, 1700 mètres cet après-midi. Près des Pyrénées, de la pluie, de la neige vers 700 mètres. Du nord-ouest au nord-Pas-de-Calais, quelques averses encore au menu, mais aussi de bons moments de soleil ce matin, comme sur l'Aquitaine d'ailleurs. Sur le reste de la moitié nord, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Auvergne-Rhône-Alpes, des nuages bas et des brouillards nombreux ce matin. On pourrait espérer quelques éclaircies cet après-midi. Attention au regel des chaussées, les gelées sont nombreuses ce matin sur une bonne partie nord. Cet après-midi, il fera 6 à 11 degrés au nord, 8 à 14 au sud et jusqu'à 18 en Corse.
Élodie Calac de Météo France.